VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 25 octobre 2017, en direct de Washington, Idrissa Seloudia et Arnold Butson, pour commencer les titres.
Le ministre nigérien de la Défense, Kalamu Tari, réagit sur VOA Afrique à l'enquête sur le guet-apens qui a coûté la vie à des soldats américains et nigériens le 4 octobre dernier au Niger.
Les États-Unis s'inquiètent de la violence au Togo et appellent le gouvernement de Lomé à respecter le droit de manifester.
Le président ivoirien Alassane Ouattara rassure sur ses relations avec le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro.
En République démocratique du Congo, Pierre Kandoudia Mbayi, ministre d'État au budget, rejette les ordres du chef de son parti, Vital Kamerhe, et reste au gouvernement.
Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est arrivé hier à Bangui, en Centrafrique.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Le Congrès américain demande des explications au Pentagone sur les détails de l'attaque du 4 octobre au Niger. 4 soldats américains et 4 soldats nigériens ont été tués dans une embuscade près de Tongo Tongo, village non loin de la frontière avec le Mali. Le Pentagone assure avoir ouvert une enquête pendant qu'une vive polémique est engagée sur la manière dont le président Donald Trump s'est adressé à certaines familles de victimes. La réaction du ministre nigérien de la Défense, Kalamu Tari.
Il faut que vous compreniez que la guerre, elle est d'abord militaire. Il faut que les Américains comprennent que des choses graves se jouent dans cette partie du Sahel, qui n'est pas de l'ordre de la polémique et des suppositions. Les Américains sont avec nous ici, en Afrique. Les Français sont avec nous ici, en Afrique. Ils essaient de nous accompagner dans cette menace globale. Il ne faut pas que certains débats arrangent les terroristes. Et tel que les choses sont en train de se passer, c'est les terroristes qui ont la victoire sur les démocrates. C'est les terroristes qui sont en train de semer la discorde au sein des démocrates. Je crois qu'il faut qu'on cesse de blaguer un peu sur ces questions-là.
Kalamu Tari, ministre nigérien de la Défense, que nous retrouverons dans la seconde partie de cette édition pour revenir sur cette attaque.
Les États-Unis appellent le gouvernement du Togo à respecter le droit de manifester. Washington fait part de son inquiétude face au niveau de violence dans le pays après des semaines de crise. Le département d'État se dit préoccupé par un recours excessif à la force de la part des forces de sécurité. Nicolas Pineau.
Oui, dans une déclaration de la porte-parole du département d'État, les États-Unis se disent profondément préoccupés par l'escalade de la violence et les restrictions de la liberté d'expression et de réunion au Togo liées aux manifestations sur les réformes constitutionnelles. Les Américains affirment être particulièrement préoccupés par les informations faisant état d'un recours excessif à la force par les forces de sécurité ainsi que des groupes de vigilance parrainés par le gouvernement qui utilisent la force et la menace pour perturber les manifestations et intimider les civils. Autre critique de Washington, la décision du gouvernement togolais de restreindre les manifestations pendant la semaine de travail et d'arrêter un imam imminent dans la ville de Sokodé. Les États-Unis appellent le gouvernement togolais à défendre les droits de ses citoyens, notamment leur liberté d'expression, de réunion pacifique et de liberté sur Internet. Les États-Unis encouragent enfin le gouvernement et l'opposition à engager un dialogue sans conditions préalables, ce qui est la seule solution à l'impasse actuelle, selon Washington. On rappelle que Faure Gnassingbé est au pouvoir depuis 2005 au Togo. Il avait succédé à son père, le général Gnassingbé Eyadema, qui avait dirigé le pays d'une main de fer pendant 38 ans. Faure Gnassingbé a été réélu à 2 reprises lors de scrutins contestés.
De son côté, le président ivoirien Alassane Ouattara a évoqué la situation au Togo en marge d'une réunion de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à Niamey au Niger. Monsieur Ouattara a déclaré à VOA Afrique que la CDAO condamnait la violence au Togo.
Nous avons indiqué qu'il était important qu'il y ait un climat de paix au Togo. Nous condamnons la violence, quelle que soit l'origine de la violence. Donc les manifestations doivent pouvoir se faire, mais de manière pacifique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous estimons qu'il faut des négociations, car il y a des institutions au Togo, et que ces négociations doivent aboutir aux modifications constitutionnelles qui ont été déjà engagées, c'est-à-dire la limitation à 2 mandats, et la question d'une élection où la majorité absolue doit être constatée au premier tour, à défaut de quoi il faut un deuxième tour. Et la troisième chose, c'est de faire en sorte que toute personne responsable de violence soit sanctionné. Et la CEDEAO n'hésitera pas à prendre des mesures vigoureuses dans ce domaine. Alors nous considérons que le Togo doit avoir un climat de paix et nous les encourageons tous les Togolais à trouver la meilleure voie nécessaire. Mais les propositions qui sont déjà faites sont des propositions qui permettent d'avancer vers plus de démocratie au Togo et nous soutenons donc ces initiatives.
Par ailleurs, le président Ouattara a affirmé que tout va bien avec le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, qui vient tout juste de rentrer à Abidjan.
Le président de l'Assemblée est un jeune homme que j'ai proposé à mon parti pour être président de l'Assemblée nationale. Il ne saurait y avoir de crise entre le président de l'Assemblée et moi-même. Et au moment où il a pris fonction à l'Assemblée, j'étais encore le président du Rassemblement des Républicains dont il fait partie jusqu'à nouvel ordre. Donc il n'y a pas de crise. Vous parlez d'arrestation, il n'y a pas d'arrestation. Je ne vois pas. Il y a une personne qui a été mise sous mandat de dépôt en attendant que le jugement se fasse parce que les enquêteurs ont trouvé 6 tonnes d'armes dans la résidence d'une personne. Ce n'est pas normal. La Côte d'Ivoire est un état de droit et la loi s'applique à tous les citoyens sans exception. Mais la justice fera son travail.
Le président ivoirien Alassane Ouattara.
En République démocratique du Congo, Pierre Kangoudia Mbayi, ministre d'État au budget, quitte Vital Kamerhe et le reste du gouvernement. Délégué de l'Union pour la nation congolaise et appelé en tant que tel à se retirer de l'équipe gouvernementale, l'ancien directeur de cabinet de Vital Kamerhe en a décidé autrement. Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, fait le point.
Je me remets au président de la République qui m'a nommé et refuse de servir aux intérêts égoïstes de certains. C'est l'une des phrases choc prononcées par Pierre Kangoudia lors de son très attendu point de presse organisé mardi au siège du gouvernement à Kinshasa. En réponse à son parti, l'Union pour la Nation Congolaise, qui avait annoncé la veille le retrait du gouvernement de son délégué, évoquant notamment le retard et le non-respect des échéances électorales prévues le 31 décembre 2017, Kangoudia a fait son choix et l'explique. Comment justifier mon seul retrait des institutions tout en laissant l'autre membre de l'UNC à la CENI? Je ne comprends pas l'actuel acharnement sur ma personne, a-t-il souligné. Pierre Kangoudia accuse par ailleurs certaines personnes, sans les nommer, de vouloir par cette démission tirer les ficelles d'une démarche au contour fallacieux. Je refuse de satisfaire les intérêts égoïstes de certaines personnes en créant inutilement une crise au gouvernement, déclare le ministre d'État avant d'annoncer son départ du parti de Vital Kamerhe. En réaction, l'UNC rappelle à Kangoudia qu'il n'est ministre que parce que proposé par l'UNC et devrait donc libérer ce poste qui ne lui revient pas à titre personnel. Certains proches de Kamerhe voient également dans cette décision de Kangoudia une tentative de déstabiliser l'Union pour la Nation Congolaise de la part de Joseph Kabila et de sa majorité présidentielle. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est arrivé hier à Bangui, en Centrafrique. C'est sa première visite d'une opération de maintien de la paix depuis sa prise de fonction en janvier. Le point avec Dili Diko.
Une foule s'est massée hier pour l'accueillir sur la route de l'aéroport au nord de Bangui. Pendant sa visite de 4 jours, le patron de l'ONU se rendra à Bangassou, théâtre de massacres à répétition. 6 casques bleus ont été tués dans la zone en mai dernier. Monsieur Guterres s'entretiendra avec les contingents gabonais et marocains et visitera le camp de déplacés de la ville. À son retour à Bangui, il doit rencontrer des victimes d'abus sexuels et leurs familles. Ces derniers mois, les accusations d'agressions sexuelles se sont multipliées contre des casques bleus. Il devra aussi s'entretenir avec le président Faustin Archange Touadéra et Karim Mekassoua, président de l'Assemblée nationale, accusé en juillet par le camp présidentiel de fomenter une tentative de coup d'État. Il rencontrera aussi des ONG, la plateforme interreligieuse et des cadres de la société civile. Jeudi, il se rendra dans le quartier musulman de PK5, poumon économique de la capitale.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis vont de nouveau accepter des réfugiés après 4 mois d'une suspension très controversée, a annoncé mardi la Maison-Blanche, à l'exception de ceux venant de 11 pays à haut risque, la plupart à majorité musulmane, c'est ce que rapporte l'AFP. Cette interdiction temporaire a fait l'objet d'une longue saga judiciaire depuis sa proclamation par Donald Trump dès son arrivée à la Maison-Blanche en janvier, dans un décret qui fait encore polémique.
Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a entamé sa visite au Pakistan en exhortant les dirigeants de ce pays à accélérer leurs efforts dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. M. Tillerson et sa délégation ont eu hier des réunions avec le Premier ministre, le chef militaire pakistanais, le directeur des services de renseignement et d'autres hauts responsables. Les discussions ont porté sur la coopération bilatérale, le partenariat et l'accroissement des relations économiques, mais aussi la nécessité, selon l'appel du président Donald Trump, d'éradiquer les militants et terroristes qui opèrent au Pakistan. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Jacques Aristide.
Le Fonds monétaire international est au Gabon pour évaluer la situation économique du pays. La délégation du FMI, présente pour 2 semaines à Libreville, a été reçue hier par le ministre du Budget, Jean-Fidèle Otando, pour évoquer la crise économique que traverse ce pays pétrolier depuis 2 ans et les mesures prises par les autorités pour l'endiguer. En juin, le FMI a approuvé un prêt sur 3 ans de 642 millions de dollars pour le Gabon, avec un premier décaissement immédiat de 98,8 millions. Le ministre Tando a rappelé la nécessité pour son pays de percevoir le reste des fonds promis. Le Nigeria vise une production pétrolière d'1,8 million de barils par jour d'ici le début de l'année prochaine, mais ne compte pas dépasser ce volume en conformité avec l'objectif de l'OPEP, qui a décidé de limiter la production pour soutenir le marché et faire remonter les prix. L'Africa Finance Corporation a signé un accord avec le Fonds vert pour le climat en Corée du Sud. L'AFC, qui investit notamment dans des projets d'infrastructure en Afrique, est un des premiers organismes de finance de développement africain à signer un tel accord. Le Fonds vert, qui a levé à ce jour 10,3 milliards de dollars, soutient des mesures en faveur du climat dans les pays en voie de développement.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Coupe du monde des moins de 17 ans, le Mali aux portes de la finale.
Et oui, les Aiglonais qui affrontent l'Espagne en demi-finale de ce tournoi qui a lieu en Inde. Le Mali a 90 minutes de l'exploit. Tandis que dans l'autre demi-finale, le Brésil affronte l'Angleterre.
10e journée du championnat italien, l'Inter en tête.
Une belle occasion pour l'Inter de Milan qui n'a pas raté le coche. Les Milanais ont chippé provisoirement la place de leader de la Serie A en battant 3 buts à 1 la Sampdoria, mettant ainsi sur Naples la pression qui affronte ce mercredi le Genoa. La Juventus de son côté qui complète le podium sera elle opposée au Spal avant-dernier de la Serie A.
La Juventus mise hors de cause dans le transfert de Pogba.
Et oui, la Juve a été complètement blanchi par la FIFA de toute malversation lors du transfert de Paul Pogba à Manchester United l'an dernier. Cet été, Manchester avait déjà été mis hors de cause, mais la FIFA enquêtait toujours sur le rôle du champion d'Italie dans le transfert du Français, qui se chiffrait à environ 105 millions d'euros. Pour la FIFA, il s'agissait de déterminer si l'argent touché par l'agent du joueur, Mino Raiola, avait été versé dans les règles. Raiola avait reçu 27 millions d'euros dans l'opération, mais selon les documents ayant fait l'objet de fuite, il aurait également touché des émoluments de la part de Pogba et de Manchester, une commission qui serait alors montée à 49 millions d'euros, c'est presque la moitié du transfert. On rappelle que Paul Pogba est actuellement blessé depuis la mi-septembre. Il est touché à la cuisse gauche. On ne sait pas quand il reviendra sur les terrains.
Tennis, Serena Williams garde espoir au Masters de Singapour.
Et oui, l'américaine 5e joueuse mondiale s'est relancée dans la course à la qualification pour les demi-finales du Masters en décrochant son premier succès aux dépens de la Lettonne Yelena Ostapenko, le score 7-5, 6-7, 7-5. Après, tenez-vous bien, 3h13 de jeu entre l'aînée des sœurs Williams, qui a 37 ans, et la Benjamine du tournoi, qui a 20 ans. Venus Williams affrontera l'Espagnol Garbine Muguruza jeudi lors de son dernier match de groupe. Allez Idrissa, avec vous les résultats de la NBA. Cette nuit, le championnat de basket nord-américain.
Chicago 112, Cleveland 119, Brooklyn Nets 121, Orlando 125, New York Knicks 89, Boston Celtics 110, Indiana 130, Minnesota 107, New Orleans 93, Portland 103, Utah Jazz 84 et les Clippers 102.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Niger, 4 soldats américains et 4 soldats nigériens ont été tués le 4 octobre dernier dans une embuscade près de Tongo Tongo, non loin de la frontière avec le Mali. Le Congrès américain demande des explications au Pentagone qui assure avoir ouvert une enquête. Qu'est-ce qui a pu se passer ce jour-là ? Idriss Fall a joint à Niamey Kala Moutari, ministre nigérien de la Défense.
C'est une embuscade, ils étaient en mission, faisaient leur travail. Les forces spéciales du Niger ont amené plusieurs autres missions dans les mêmes circonstances, dans la même zone. Et que cette fois-ci, au retour de leur mission, ils sont tombés sur cette embuscade. À la hauteur du village de Tongo Tongo, les terroristes embusqués dans la forêt ont tiré dessus ceux qui étaient à découvert. Donc nos soldats, de manière générale, se sont très bien comportés. Mais il faut que tout le monde sache que dans ce genre de situation, lorsque vous êtes surpris de cette façon, lorsque vous êtes à découvert, la première des choses pour un soldat, c'est de se mettre à couvert. Et c'est le comportement que les soldats ont eu. Américains comme Nigériens, nous en sommes tous fiers de comment ils se sont comportés face à ce déluge de feu des terroristes.
Maintenant, déluge de feu, est-ce que ça signifie que les assaillants étaient en surnombre?
Ils étaient nombreux, mais ce n'est pas le nombre l'important. L'important, c'est la surprise, c'est qu'ils leur ont tendu une embuscade. Et tous les professionnels de cette matière-là vous diront qu'une embuscade, quand on y tombe, ce n'est plus une question de sécurité numérique ou de sécurité des armes.
Ça s'est passé à quelle distance de Tongo Tongo, du village?
Moins d'une dizaine de kilomètres.
Parmi les soldats américains, il y en a 3 qui sont morts et il y a un 4e qu'on a retrouvé 48 heures après. Pourquoi?
Parce que tout simplement, les gens ont cherché à se mettre à couvert pour se défendre. Et il y avait une confusion qui ne permettait même pas à des forces qui sont venues en appui d'aider les soldats parce qu'il y avait une mêlée. Les gens se sont tirés dessus, les gens étaient à proximité les uns des autres et après il fallait qu'on prenne et nos blessés et nos morts et il fallait les chercher.
Est-ce que ça veut dire que les soldats pris par surprise ont battu en retraite?
Non, ils ont tenu, ils se sont mis à couvert. Parce que je vous dis, les autres étaient en forêt, eux étaient à découvert.
Le 4e corps, pourquoi on l'a retrouvé 48 heures après?
Parce qu'il fallait le chercher en forêt. Parce que nous pensions au début qu'il a été emporté par les terroristes. Et on cherchait à couper la route aux terroristes. Nous avons mis tous les moyens pour le chercher, mais nous ne le cherchions pas là où il était. Nous le cherchions plus loin. Tout le monde était dans la recherche. Et les Américains, et les Nigériens, et les Français.
Justement, les Français, les renforts sont venus quand? Apparemment, ils sont venus longtemps après l'attaque.
Ils sont venus au moment où il fallait. Je vous ai dit qu'il y avait une mêlée et qu'ils ne pouvaient pas tirer avec les moyens qu'ils avaient. C'était général. Ils ne pouvaient pas tirer sans risquer la vie des amis.
Kala Moutari, ministre nigérien de la Défense.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Pour rester au Niger, la task force présidentielle de la CDAO chargée de coordonner la marche vers une monnaie unique dans l'espace ouest-africain s'est réunie hier à Niamey pour faire le point sur le processus. Il en ressort que l'échéance de 2020 pour mettre en route cette monnaie unique ne sera pas respectée. Notre correspondant Abdelrazak Idrissa fait le point.
Depuis 1987 que l'idée de cette monnaie unique a été lancée, 2 feuilles de route ont été élaborées pour y parvenir. Une en 2006, une autre en 2015. C'est cette dernière qui a fixé l'horizon 2020 pour la concrétisation du projet. Issoufou Mahamadou du Niger, co-président avec le Ghanéen de la task force présidentielle de la CEDEAO sur la monnaie unique.
Notre monnaie unique, tant annoncée, mais jamais au rendez-vous, ne doit pas être perçue au mieux comme un signe d'impréparation, au pire comme un manque de volonté politique. La monnaie unique de la CEDEAO ne doit pas être l'arlésienne toujours annoncée, mais jamais présente, jamais arrivée. Nous devons tout mettre en œuvre pour le respect de la date de 2020.
Invité à cette quatrième réunion de la Task Force, le président du Nigeria et celui de la Côte d'Ivoire, eux, ont estimé que le projet n'est pas réalisable à l'échéance de 2020. Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire.
Nous devons être réalistes. C'est important de tout faire pour essayer d'avoir la monnaie unique en 2020. Et ceci demande la poursuite des mesures donc de restructuration, de développement, pour être sûr que nos économies sont capables de résister aux crises actuelles, qu'elles soient endogènes ou exogènes. À mon humble avis, ce ne sera pas facile d'avoir la monnaie unique en 2020.
Déjà, à l'ouverture de la réunion, le président de la commission de la CEDEAO, le Béninois Marcel de Souza, donnait aussi le ton.
Lorsqu'on regarde les éléments en présence, nous pouvons dire que la feuille de route n'a pas été mise en œuvre rigoureusement. D'importants progrès ont été accomplis pour la convergence, mais ces résultats sont faibles. Et donc, nous ne pouvons pas aller en 2020 à la monnaie unique.
La rencontre a décidé de mettre en place un comité de réflexion sur une probable nouvelle feuille de route ou encore sur la faisabilité du projet en 2020. Le dit comité présentera ses résultats en février 2018. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, effectue une visite de 4 jours en Centrafrique où il est arrivé hier mardi. Le mandat de la MINUSCA qui expire le 15 novembre devrait être renouvelé. La mission onusienne subit de nombreuses critiques face aux violences qui ont fait des centaines de morts rien que cette année. Ekia Badou a joint à Bangui Joseph Bindoumi de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme.
Ce qui nous intéresse, c'est qu'il donne des instructions pour que les engagements des forces des Nations Unies dans le but de protéger les populations civiles soient respectés et que le chapitre qui leur donne ce mandat soit effectivement appliqué.
Que pensez-vous des 10 000 casques bleus qui sont là? Qu'est-ce que vous souhaitez par rapport à ces forces? Que pensez-vous de leur travail sur place?
Les forces qui sont sur place sont largement équipés, mais ils ne font pas le travail qu'ils sont venus faire. Parce que la première mission qui est la leur, c'est de ramener la paix en République centrafricaine. Malheureusement, quand ils sont arrivés, il n'y avait que 2 groupes armés qui se battaient. Mais aujourd'hui, nous en avons pratiquement 14 qui sont sur le terrain. Deuxièmement, quand ils sont arrivés, il y avait un nombre raisonnable de victimes. Mais aujourd'hui, le nombre de victimes qu'ils ont trouvées est multiplié pratiquement par 8 ou par 10.
Au vu de ce que vous dites, vous avez l'impression que ça empire?
Oui, mais nous, non seulement que ça empire, mais que nous avons relevé des crimes graves, des atteintes graves ou des violations graves des droits humains, c'est des meurtres, c'est des viols, c'est des abus sexuels. Et en leur présence constante, par lesquels eux-mêmes, ils ont filmé, documenté, alors qu'ils avaient l'obligation de ne pas laisser faire. Nous avons aussi des preuves que les forces négatives ont traversé leur protection, leur zone, leur barrière pour aller commettre des actions et revenir traverser cette même barrière. Nous avons des preuves de ça. 12 000 hommes de troupes avec des avions de combat, des moyens de communication les plus modernes, y compris des drones, des véhicules blindés. Ces violations que nous connaissons aujourd'hui en République centrafricaine ne devraient pas l'être.
Joseph Bindoumi de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, joint à Bangui.
Et Kabadou, avec vous, dans Washington Forum, ce jeudi, le point sur la situation en République centrafricaine. Depuis 2013, plusieurs groupes armés sèment la désolation dans le pays, malgré la présence de plus de 10 000 casques bleus. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, effectue une visite en RCA. Faut-il envoyer plus de casques bleus? Comment sortir de cette crise? Comment rétablir la paix dans le pays? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
Le retrait du Burundi du traité de Rome et de la Cour pénale internationale décidé l'année dernière par Bujumbura doit entrer en vigueur dans 2 jours. Eddy Issango a évoqué la situation ici à Washington avec le défenseur des droits de l'homme, Pierre Claver Monimpa.
C'est regrettable parce que la date est butoir, c'est le 27 octobre. Nous espérions que la Cour pénale internationale allait ouvrir des enquêtes, mais qu'à cela ne tienne, attendons encore. Il y a trois jours qui restent, mais si la Cour pénale internationale ne parvient pas à ouvrir des enquêtes proprement dites, il y a des enquêtes préliminaires et je pense que les crimes commis avant le 27 octobre pourront être poursuivis même dans l'avenir.
Vous avez été plusieurs fois victime de tentatives d'assassinat et vous avez même perdu votre fils et même votre beau-fils. Quel impact cela a-t-il eu sur votre combat?
C'est la prédestination. Moi-même, je suis là. Bon, j'allais mourir, mais ça n'a pas été le cas. Il y a d'autres victimes, il y a d'autres familles qui ont perdu les leurs. Ce n'est pas moi seulement. Bon, l'impact sur mon travail, et cela ne peut pas me décourager parce que je dois continuer à défendre les sans-voix.
Est-ce que vous pensez qu'il faudrait répandre le dialogue? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui?
Même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils sont arrivés là où ils sont par des dialogues. Et c'est pourquoi nous privilégions toujours les négociations. Mais qu'à cela nous tienne, en cas de force majeure, si réellement le pouvoir de Bujumbura refuse de dialoguer, on va continuer à faire de plaidoyer, à demander la communauté à nous aider, si toi passes par des sanctions sévères, et comme ça, ça c'est le chemin de contraindre le gouvernement actuel du Burundi d'accepter le dialogue. Mais si ça échoue complètement, et je pense que ça sera l'ouverture d'autres chemins violents, et ça sera très très malheureux, parce que nous avons vu que le chemin des armes ne peuvent pas trouver des solutions, surtout qu'il y a beaucoup de gens qui meurent gratuitement alors qu'ils ne sont même pas des politiciens.
Vous êtes sorti difficilement du Burundi avec comme prétexte ou pour raison d'aller vous faire soigner à l'étranger. Est-ce que vous pensez y rentrer?
Mais maintenant, vous entendez comment je parle. Ça, ce n'est pas ma voix initiale. Je continue à me faire soigner et d'après les promesses des médecins, je pourrais recouvrir ma voix à la fin du mois d'août 2018. Alors, à ce moment, comme j'ai été évacué par autorisation du gouvernement du Burundi, je vais retourner au pays dans la même voie.
Lors de son passage dans nos studios ici à Washington, Pierre Claver Monimpa, qui, pour son courage, vient de recevoir le Civil Courage Prize de cette année à New York.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités, des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. C'est au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
La vie est difficile.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.